Et sur RFI, l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Six étapes, six discours répartis sur trois jours. Fidèle à sa tradition mémorielle, le président français Emmanuel Macron a vu les choses en grand. En vue du 80e anniversaire du débarquement des troupes alliées en Normandie, le point d'orgue, ce sera ce jeudi avec la présence sur site de plusieurs dizaines de chefs d'État. Notre question ce soir, est-ce que la mémoire se perd? Comment la faire perdurer? Les commémorations sont-elles toujours adaptées ou bien y en a-t-il trop de commémorations? Faut-il revoir ce format, ce modèle? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Denis Péchanski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, président du conseil scientifique et d'orientation de la mission du 80e anniversaire des débarquements, de la libération de la France et de la victoire. Stéphane Simonet, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en histoire, chercheur à l'université de Caen et ancien directeur scientifique du mémorial de Caen, tout cela dans l'ouest de la France, spécialiste du débarquement et de la libération de la France. Et enfin, Aïssata Sek, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, fondation qui soutient la recherche sur la traite des Noirs en France et s'attache à en transmettre la mémoire pour lutter contre le racisme et les discriminations. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Pour commencer, Denis Péchanski, pour qu'on sache à quoi on a affaire, à quoi les auditeurs vont avoir affaire, parce qu'on va évidemment beaucoup en parler cette semaine sur l'antenne de Radio France Internationale. Est-ce que vous pouvez nous présenter, évidemment dans les grandes lignes, on ne va peut-être pas faire le détail, mais ce qui est prévu à l'occasion de ces commémorations du débarquement de Normandie, évidemment c'est le 80e anniversaire, donc vous marquez le coup.
Oui, mais justement c'est un parcours mémoriel qui en lui-même porte sens. Quand vous avez dans les premières la commémoration, évidemment, la plus spectaculaire, c'est la commémoration internationale à Omaha Beach, le débarquement, la référence aux Américains, aux Britanniques et au-delà toutes les nations qui ont participé au débarquement et à la libération. Mais vous avez aussi l'hommage à la résistance française. C'est la première fois qu'il y a un hommage de ce niveau-là au Maquis de Saint-Marcel et à côté du Maquis de Saint-Marcel pour rendre compte du rôle de la résistance française en Bretagne, à côté de Vannes. Ça va être ils vont bloquer, vraiment, c'est très spectaculaire, en lien avec les SAS, qui étaient donc des troupes aéroportées, mais envoyées d'abord une vingtaine, puis 500 au total, qui sont des Français envoyés depuis Londres. Et bien, ils vont neutraliser une bonne partie de l'armée allemande qui se trouvait là, en Bretagne, leur empêchant de remonter en Normandie. Donc, c'est un hommage à la résistance intérieure qui a joué effectivement un rôle très important dans le renseignement et dans le combat. Et là, en plus, il y tient beaucoup, manifestement, dans l'association de la résistance intérieure, FFI, et la résistance extérieure, les FFL et là les SAS, à travers les SAS. Donc c'est un moment très important. Puis, autre moment essentiel, Saint-Lô. Saint-Lô, c'est une ville qui a été détruite par les bombardements. Mais qu'est-ce qu'on fait? Que fait la mémoire avec les bombes qui sont larguées par les copains qui viennent vous libérer? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est ça le drame de la Normandie, de la Bretagne, de toutes les villes qui ont été bombardées aussi ailleurs, c'est qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, ce drame des destructions, de la mort des blessés, et il n'y a pas de relais dans la mémoire collective. Et tout le défi...
Il n'y a pas de relais aujourd'hui ?
Ouais. Et tout le défi, justement, de ces commémorations-là, ça avait été déjà lancé par François Hollande il y a 10 ans, dans un discours devant le mémorial de Caen. Là, il va sur place, le président de la République, Emmanuel Macron, et tout le défi, c'est de construire un récit qui réintègre ces populations et ce qu'elles ont vécu dans un grand récit national.
Vous nous avez dit ce qui s'est passé, mais vous ne nous avez pas dit ce qu'on va voir. Et comment on fait le lien entre les deux?
Eh bien, ça sera dans le discours, ça sera dans ce qui est prévu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans ce qui est prévu sur place, les manifestations populaires, quelquefois c'est au niveau évidemment des chefs d'État, mais là très clairement à Saint-Lô, c'est avec la population, dans les haras. Bon, je pense qu'il faut avoir tout ça en tête, il faut savoir aussi, et enfin, simplement préciser en quelque sorte, ce que Beckett appelait la capitale des ruines, il n'y a jamais eu de commémoration au moment du 6 juin au sujet de ces questions-là. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel. Bon. Et quand il va à Bayeux, c'est évidemment pour s'inscrire dans la continuité du général de Gaulle.
Quand vous dites « il » à chaque fois, c'est Emmanuel Macron. Hein.
Et évidemment, c'est le président de la République. Et il s'inscrit dans les pas du général de Gaulle et dans la réaffirmation de la souveraineté nationale, alors même que de Gaulle avait été écarté du débarquement. Et Cherbourg, ça sera encore une étape, mais c'est le plus important port du monde pendant quelques temps. Parce qu'on fait venir, évidemment, là, une fois qu'on l'a contrôlé, ça a pris quand même un peu de temps, on fait venir, là, évidemment, les troupes, les armes et tout, très massivement, et c'est vraiment le lieu de l'amitié franco-américaine.
On va évoquer évidemment dans ce débat le rôle d'Emmanuel Macron, parce qu'il est important, lié aux commémorations. Il y a le terme d'inflation mémorielle, parfois, qui est collé au chef de l'État. Stéphane Simonet, d'un mot, vous, quel regard vous portez sur ces commémorations qui approchent du 80e débarquement de Normandie? Vous qui étiez, encore une fois, ancien directeur scientifique du mémorial de Caen, et ça, c'est symbole du tourisme mémoriel, le mémorial de Caen, chaque année, c'est 500 000 visiteurs environ.
Oui, voilà, le mémorial de Caen, c'est la grosse locomotive de ce qu'on appelle le tourisme de mémoire en Normandie, hein, qui attire chaque année entre 5 et 6 millions de visiteurs, hein, qui viennent voir les champs de bataille, les sites, les cimetières, les musées. Et alors moi, effectivement, j'ai un regard avec une loupe plus précise, parce que j'habite à Caen, je vis en Normandie, j'y travaille, donc je vois effectivement tout ce qui se met en place, et tout ce qui se met en place déjà tout au cours de l'année. Et là, effectivement, on est dans un moment de synthèse, la semaine qui s'annonce, là, effectivement, et comme l'a dit Denis Puchanski, c'est la première fois qu'on a une fenêtre comme ça qui va permettre à la fois de rendre hommage à la résistance normande et bretonne, de rendre hommage aux combattants FFI, de rendre hommage effectivement aux civils, parce qu'on oublie quand même trop souvent que 20 000 civils normands ont perdu la vie pendant l'été 44, donc c'est autant que de GI américains qui ont combattu en Normandie. Donc c'est un chiffre que l'on connaît depuis une vingtaine d'années maintenant, mais voilà, là, à Saint-Lô, il y a vraiment une cérémonie spectaculaire et spéciale pour eux. Et puis, l'enchaînement des cérémonies, effectivement, sur toutes les plages, avec la grande cérémonie à Omaha Beach. Donc, on parle d'inflation mémorielle, effectivement, elle existe et elle ne se dément pas chaque année, chaque anniversaire, chaque dizaine d'années, chaque année en quatre. On voit de plus en plus de cérémonies et on voit surtout un engouement de la population qui fréquente ces lieux et qui adore fêter la libération. Cet événement du 6 juin 1944, c'est un des rares conflits où on peut à la fois commémorer un événement très douloureux qui est le débarquement, les morts, mais également fêter la libération. Il n'y a pas d'autre événement historique dans l'histoire de la France qui puisse permettre d'être sur les deux registres. Et donc, cette inflation, on ne la contrôle pas vraiment. Et donc, effectivement, chaque commune, chaque collectivité veut se mettre en avant, ses héros, le général, le soldat, etc., etc.
L'avancée que vous évoquiez, que Denis Péchanski évoquait aussi à l'occasion de ces commémorations, est-ce que le public la ressent ou est-ce qu'il y a aussi des voix critiques qui vont dire « on en fait trop » ?
Il y a des voix critiques qui disent qu'on en fait beaucoup trop autour de cette seule date du 6 juin 1944, effectivement, en disant « mais attendez, n'oubliez pas quand même qu'on a été bombardés par nos amis, les morts, le traumatisme des populations, on passe vite sur toutes ces villes qui ont été ruinées, qui ont été rasées, et Saint-Lô en est l'exemple type, Caen également ». Mais ce qui l'emporte, moi je vois bien ce qui l'emporte, c'est quand même l'engouement de... Mais pas que des Normands. Hier, j'étais encore à Sainte-Mère-Église, j'ai vu des gens qui venaient des quatre coins de la France pour participer aux cérémonies, pour vivre l'événement de manière très engagée, hein, en assistant à des salons du livre, à des camps de reconstitution, donc avec les enfants. Donc c'est un événement qui attire toutes les classes d'âge également. Donc c'est pas qu'un événement pour la Normandie.
Et le public, donc répond présent à ces commémorations. Aïssa Tassek, est-ce qu'il en est tout autant concernant la mémoire de l'esclavage? Vous êtes directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Évidemment, on va faire de comparaison entre le 80e anniversaire du débarquement et la mémoire de l'esclavage. Mais est-ce qu'il y a aussi cette demande? Est-ce que vous la ressentez?
On la ressent évidemment parce que c'est déjà une histoire douloureuse, c'est une histoire française, c'est une histoire extrêmement complexe à aborder. Après, là, on est vraiment sur deux sujets différents, parce que là, on est dans un moment qui sera évidemment festif, un moment où on mettra en avant les héros de la libération. On parle du débarquement de Normandie, mais on va avoir aussi après le débarquement de Provence qui a été aussi, lui, tout aussi important. Sur la mémoire de l'esclavage, c'est un peu plus complexe dans le sens où c'est déjà une histoire bien plus ancienne. On parle d'une histoire avec une abolition en 1848. Donc 1848, pour beaucoup, pour les Français, c'est une histoire qui est beaucoup trop lointaine. Et donc, évidemment, on a beaucoup plus de difficultés à transmettre cette histoire, cette mémoire, mais on le fait aussi à travers des événements, des commémorations. On a deux dates de commémoration nationale en France, le 10 mai et le 23 mai. Donc, on essaie de se saisir déjà de ces deux dates de commémoration. Et puis ensuite, au-delà de cette mémoire, en France, ni le 10 mai ni le 23 mai ne sont des journées fériées. Donc, on arrive quand même à mobiliser les collectivités, un peu plus depuis que la Fondation existe, mais il y a tout un travail pédagogique à faire, notamment sur les sujets, les questions qui reviennent assez souvent, sur les questions de repentance. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est là, en fait, ce qui est important, c'est de transmettre l'histoire par la culture pour la citoyenneté. Ça fait partie de l'histoire de France. Elle est certes douloureuse, mais ça fait partie de notre histoire et il est extrêmement important de la transmettre. Et transmettre l'histoire de l'esclavage, on le fait difficilement parce qu'on n'est pas dans des moments de célébration, des moments festifs. Par contre, on a aussi des figures héroïques qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage. On a la question des résistances et des résistants dans les territoires d'outre-mer, en Guyane, en Haïti, à Saint-Domingue à l'époque. Et on a aussi beaucoup de personnalités, de personnes qui étaient pour l'abolition et ce qu'on appelle les abolitionnistes. On a Victor Schœlcher, Lamartine, etc., qu'on met aussi en avant. Donc on le fait aussi à travers des figures héroïques et c'est de cette manière qu'on arrive à mieux transmettre cette histoire.
Mais ça se traduit comment, concrètement? Qu'est-ce qui se passe les 10 et 23 mai?
Les 10 et 23 mai, on a deux commémorations nationales. Donc cette année, on a une commémoration qui a été présidé par le Premier ministre, qui a prononcé un discours fort et puissant avec un certain nombre d'annonces, notamment la création d'une grande exposition en 2026. Ça sera la première en France. Les lieux de mémoire aussi, où on aura un label de la Fondation autour de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage. Ça se traduit aussi en proposant des outils pédagogiques supplémentaires aux enseignants pour mieux enseigner cette histoire. Aujourd'hui, on enseigne le commerce triangulaire et la Fondation, à travers un partenariat qu'elle a avec le ministère de l'Éducation nationale, propose des outils pédagogiques aux enseignants parce que c'est une histoire extrêmement difficile à aborder, même en classe. On a souvent tendance à vouloir aussi, par exemple, aborder le sujet de la traite dite arabo-musulmane, alors que nous, on est sur une histoire française à proprement parler. Donc, nous, on propose des ressources pédagogiques et des outils qui permettent de mieux enseigner cette histoire à l'école.
C'est d'abord dans les cours d'histoire.
C'est dans les cours d'histoire, c'est à travers aussi les commémorations locales, donc les cérémonies, le 10 mai, le 23 mai. On a créé ce qu'on appelle le temps des mémoires, qui permet aux collectivités de se saisir de ce temps, donc du 27 avril, date de l'abolition de l'esclavage en 1848, jusqu'au 10 juin, date de commémoration locale en Guyane. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les territoires d'outre-mer, toutes les dates locales, ce sont des journées fériées. Et ensuite, on s'associe également à ces commémorations le 20 décembre à La Réunion, où là, on a aussi les commémorations de l'abolition de l'esclavage. Donc, ça se traduit à travers les programmes scolaires. Donc, on propose des outils pédagogiques supplémentaires à travers les commémorations, mais aussi à travers le patrimoine. Aujourd'hui, dans la plupart des musées en France, on a la possibilité de parler de cette histoire. On a récemment fait une exposition au Panthéon qui s'appelait « Oser la liberté » et qui mettait en avant des figures de lutte contre l'esclavage. Et on avait toutes sortes de figures, des blancs, des noirs, vraiment une diversité de ces personnalités qui ont lutté contre l'esclavage. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de se saisir du patrimoine français. On a un partenariat avec le musée du Louvre, un gros partenariat qu'on va signer avec le Centre des Monuments Nationaux. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage est hébergée à l'Hôtel de la Marine, qui est un lieu extrêmement important pour nous, parce que c'est là qu'a été préparé le décret d'abolition de l'esclavage en 1848 par Victor Schœlcher. Et c'est une manière pour nous aussi vraiment de transmettre cette histoire.
Et on ne va pas tout détailler.
On ne va pas tout détailler,
vous faites beaucoup de choses. Mais
on fait énormément de choses.
Est-ce que vous pensez que les Français sont conscients de leur histoire? Est-ce qu'aujourd'hui, on interroge les gens dans la rue, ils savent exactement quelle est l'histoire de l'esclavage?
Je ne parlerai pas de conscience, parce que si vous posez la question à n'importe quel citoyen français, juste de savoir ce que représente la date du 10 mai, pour un citoyen lambda, à 90% des cas, ils ne connaissent pas la réponse.
Ça, c'est quoi? C'est un échec de quoi?
Je pense qu'on a pas assez bien enseigné cette histoire à l'école. Ça, c'est une réalité.
Et là, on essaie de rattraper.
Et aujourd'hui, on essaye de rattraper, cet effort qui aurait dû être fait bien en amont. Hein. Donc, c'est un gros travail qui prendra énormément de temps. On en a conscience. Maintenant, aujourd'hui, on a aussi, et vous l'avez rappelé tous les deux, on a une jeunesse qui est beaucoup plus conscientisée, qui a besoin de connaître cette histoire. On a une jeunesse qui a envie qu'on prenne en compte toutes les composantes de l'histoire de France, et ça passe aussi par ces histoires-là.
Denis Péchanski, quels sont les obstacles à la transmission de la mémoire ? Est-ce que déjà, l'absence d'acteurs ? Alors évidemment, Aïssata Seck le disait, d'époque, ça va être, ou c'est de plus en plus le cas aussi, même concernant évidemment la Seconde Guerre mondiale, ça l'est évidemment pour l'esclavage. Quels sont les obstacles à la transmission de la mémoire ?
Le vrai obstacle, c'est que il faut que les conditions de la mise en récit mémoriel, comme j'ai l'habitude de dire, soient réunies. Il faut que ça corresponde à une utilité sociale, à un besoin. Il y a des événements très importants pour les historiens qui sont complètement absents de la mémoire collective parce qu'on n'y voit pas une façon de participer à la construction identitaire de la société en question. Moi, ce qui me frappe dans le travail de la Fondation et les points communs qu'on peut avoir avec ce qui est fait sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est que derrière, il y a une dimension humaniste et universaliste. Ça, c'est la clé, d'abord, pour qu'on puisse faire transmettre correctement un message et qu'il ne soit pas un message de rejet et un message d'affrontement mémoriel, mais un message de confrontation, enfin de convergence mémorielle, mais qui a toute sa logique en France, justement parce qu'on s'inscrit et on inscrit la France et on doit inscrire la France d'aujourd'hui dans cette perspective humaniste universaliste. C'est une question absolument clé. Et ce qui me frappe personnellement, je pense sur la Deuxième Guerre mondiale, ayant eu évidemment à suivre d'un peu près toutes les commémorations avec mes responsabilités, on avait un objectif, c'est l'appropriation. C'est qu'effectivement, les populations s'approprient cet événement, ces événements. Et ce qui me frappe, ce sont les initiatives dont parlait Stéphane Simonet tout à l'heure. Le nombre de villes où ça a été pris en charge,
Stéphane Simonet, d'abord, il parlait d'abord de Caen, de cette région-là,
oui, mais au-delà,
évidemment en première ligne.
C'était
extraordinaire. Mais au fin fond de la France, aux quatre coins de la France, c'est auprès des jeunes, on en est où ?
Ben oui, mais justement, les écoles se mobilisent. Et ce qui me frappe, parce que vous savez pourquoi ça me fait réagir aussi, ce que vous avez dit, madame, c'est que votre très belle exposition a été suivie par une autre.
Oui.
Bon, je me suis un tout petit peu occupé, puisque je suis le commissaire de l'expo. C'est une exposition pour Missak Manouchian. Oui.
Qui a été panthéonisé récemment.
Qui a été panthéonisé le 21 février dernier. Et ça, ce passage-là, j'ai trouvé ça très émouvant.
Ça a été un très beau passage de relais, en effet.
Donc, je pense il est clair que là, il y a possibilité de construire nation.
Les commémorations permettent de construire la nation.
Bah, en tout cas, ça doit y participer.
Ça en fait partie, parce qu'au-delà des commémorations, c'est quelles initiatives et quels événements on organise autour de ces commémorations. Vous l'avez rappelé, les collectivités, elles s'en saisissent. Elles organisent les cérémonies dites classiques, mais à côté, en fait, il y a des cafés-débats qui sont organisés, il y a des événements qui sont organisés par les jeunes, et dans toute la France, et même dans des petits villages en Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, on a énormément d'événements qui sont organisés autour des commémorations. Et je sais que sur le 80e anniversaire du débarquement de Provence, les villes du Sud sont déjà au taquet sur les événements qui vont être organisés, et ils attendent avec impatience l'accueil que feront en tout cas ces collectivités, la présence du président de la République. C'est important aussi d'avoir cette présence étatique et éventuellement d'avoir aussi des anciens combattants qui ont participé à cette libération.
La mémoire se perd-elle ? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, alors qu'évidemment débute une semaine importante de commémoration à l'occasion du 80e anniversaire débarquement des troupes alliées en Normandie. Mes trois invités, Aïssa Tassek, que l'on entendait à l'instant, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, Denis Péchanski, directeur de recherche émérite au CNRS, président du conseil scientifique et d'orientation de la mission du 80e anniversaire des débarquements, de la libération de la France et de la victoire. Stéphane Simonet, enfin, docteur en histoire, chercheur à l'université de Caen, ancien directeur scientifique du mémorial de Caen, spécialiste du débarquement et de la libération de la France. C'est à vous, Stéphane Simonet, que je veux m'adresser à présent pour évoquer, et dès la première réponse de ce débat avec Denis Péchanski, il en a été question, Emmanuel Macron, président français, plus de 30 commémorations nationales depuis le début de son premier quinquennat. Nicolas Sarkozy, certes, un seul mandat, 3 commémorations nationales. Quelle est la part de politique, d'instrumentalisation dans les commémorations ? Et est-ce qu'il n'y a pas, d'une part, le risque d'avoir le sentiment, de donner le sentiment au public qu'il y a une tentative de récupération et surtout d'une banalisation des commémorations ?
Je ne crois pas qu'il y ait d'instrumentalisation. Je pense que le président de la République aujourd'hui, en 2024, la mémoire que l'on a aujourd'hui de l'événement n'est pas la même qu'il y a 10, 15, 20 ans. Je le vois bien, moi, pour les suivre. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'instrumentalisation. C'est simplement une mémoire qui évolue, une demande sociale qui veut en savoir plus sur un événement, sur la ville où il habite, sur ses héros, hein, qu'il a, dont les rues ont des plaques à leur nom, par exemple. Donc, en fait, le président s'inscrit dans une dynamique en fait, qui est déjà en cours depuis une vingtaine d'années. Oui. Donc, certes, il y a de plus en plus de cérémonies, il y a de plus en plus de... Mais ce n'est pas piloté par l'État, ce n'est pas piloté par un président, il n'y a pas une volonté de récupération, je ne pense pas, et là, je ne fais pas de politique, parce que tous les présidents l'ont fait, et François Mitterrand a été le premier à le faire en 84, en ayant été le premier président à se rendre sur la plage de Sword Beach pour rendre hommage aux Français. Donc, parce qu'à un moment donné, on a besoin d'héroïser l'événement, de trouver des figures, vous le disiez, sur lesquelles on pourra pouvoir se rattacher, parce que je pense que si on veut que les citoyens participent à la construction de la mémoire, il faut leur donner des héros. Et en fait, on a envie d'incarner l'histoire. Et je vois bien, moi, ce qui fonctionne bien avec les jeunes, les générations, c'est lorsque un jeune peut s'emparer d'un parcours, que ce soit un parcours d'un résistant, d'un déporté, d'un combattant.
Une histoire.
Une histoire, voilà, à laquelle ils peuvent s'accrocher et s'associer.
Et c'est pourquoi, aussi, dans notre objectif, il était essentiel que on aille de l'intime jusqu'aux décideurs au plus haut niveau cette part de l'intime soit recherchée évidemment par les familles, par les écoles, par les élèves et c'est ce qui se passe. Et le président de la République a demandé à ce qu'il y ait la grande récolte de ressources de diverses et variées, et on pense pour la Deuxième Guerre mondiale, qu'on n'avait pas pour la Première Guerre mondiale, évidemment, c'est les films d'amateurs, et qu'on puisse avoir tous ces documents qui soient donnés aux archives, en particulier aux musées, et qu'on puisse construire autour de ça, justement, une mémoire qu'on ne peut plus avoir bientôt par les survivants qui ne seront plus là. C'est évidemment ça, c'est évidemment ça la clé. Et quand vous nous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas manipulation et puis appropriation ? Il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'il s'intéresse un petit peu à la mémoire, Emmanuel Macron, parce qu'il a travaillé aussi avec Paul Ricoeur sur les questions de mémoire. Donc, ça le sensibilise un peu, particulièrement. Deuxièmement, vous savez, comme moi, j'ai pu participer à la demande de panthéonisation de Missak Manouchian, pour qu'on se retrouve avec le premier résistant étranger à rentrer au Panthéon et le premier résistant communiste à rentrer au Panthéon, alors qu'on sait l'importance et des résistants étrangers et des résistants communistes. Oui, c'était important. Mon problème, ce n'est pas pourquoi il est rentré, c'est pourquoi il est rentré si tard.
Bah, pourquoi l'histoire s'écrit tard, pour aussi tard, pas l'histoire, mais en tout cas la commémoration, parce que vous disiez
François
Mitterrand en 1984.
Il y a des décalages.
Dans un.
Oui, mais 84.
Sans transition 1995.
Et pourquoi
Jacques Chirac qui évoque pour la première fois la déportation, qui reconnaît en tout cas la responsabilité de l'État. Il y a un vrai décalage.
Oui,
entre
mais pourquoi
84 ?
C'est parce que c'était impossible pour De Gaulle de commémorer 64. Mm. Il n'était pas parmi les nations qui avaient débarqué. Il est venu après coup. Il avait été mis à l'écart par les Américains en particulier et par Churchill. Mm. Donc, évidemment, pas question de faire une grande commémoration nationale en 64.
Il y a un décalage dans ce sens entre l'histoire qui s'écrit et la commémoration. Mais ce décalage, est-ce qu'il n'y a pas un danger qui soit trop important? Et dans ce sens, je vais vous poser la question, il y a un musée du terrorisme qui doit ouvrir en 2027 près de Paris. Je vous posais la question, Denis Simonet. Est-ce que par exemple, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose?
Moi, je crois que c'est une bonne chose. Dès l'instant où on peut parler d'un événement mondial qui a été aussi choquant, là, je repense aux attentats du 11 septembre notamment, mais d'autres attentats comme lui, dès qu'il y a un fait majeur qui a bouleversé l'histoire et de France, mais pas que, je pense qu'il est intéressant de donner des clés de compréhension à travers un musée. Je pense qu'un musée du terrorisme, ça fait longtemps qu'on en parle, et je pense que Denis pourra le développer, ça me semble une pièce essentielle dans la transmission de la mémoire, et puis surtout de cette nouvelle manière de faire la guerre qui est le terrorisme.
On va donner la parole à Denis Péchanski, mais le temps tourne et Aïssa Tassé, j'aimerais vous rentendre sur ce point qu'a soulevé Denis Simonet, à savoir, il y a effectivement, et à l'image de ce que fait
Stéphane
Simonet, pardon, entre Denis Péchanski et Stéphane Simonet.
Oui, c'est un copain, donc c'est bon.
C'est ça. Stéphane Simonet reconnaissait que sous l'impact d'Emmanuel Macron, il y a effectivement de plus en plus de commémorations. Est-ce qu'il y a de plus en plus de commémorations et donc de plus en plus de sensibilisation? Est-ce qu'il y a une relation directe de cause à effet selon vous?
Pour moi, oui. Pour moi, il y a une relation effective parce que, comme je l'ai dit, hein, c'est ça. Je reviens sur les propos, notamment sur le fait de commémorer et d'organiser des événements et des initiatives autour de ces commémorations. Donc forcément, on sensibilise plus. Les médias se saisissent plus de ces sujets. On a plus de reportages. On a aussi beaucoup plus de jeunes réalisateurs qui se saisissent de l'histoire de France en général, plus aussi de l'histoire coloniale, parce que c'est aussi un sujet qu'on n'a pas évoqué ici depuis le début, mais c'est des histoires qui sont certes tragiques, mais dont on a besoin aussi d'avoir des ressources pédagogiques. Donc un musée, c'est extrêmement important parce que c'est aussi une manière de se saisir de ces sujets. Les ressources, les outils qu'on propose au niveau scolaire, c'est aussi extrêmement important. Et les commémorations, pour moi, sont un des premiers leviers qui permettent de sensibiliser le grand public, les jeunes et bien évidemment les médias qui s'en saisissent quand on a des grands anniversaires comme celui-ci.
On va tenter de clore, Denis Péchanski. Toutes les commémorations, même par exemple ce qui se passe au Monument aux Morts à chaque 11 novembre, par exemple, elles ont une utilité.
En tout cas, elles participent évidemment de cette construction mémorielle. Après, il faut l'adapter, il faut que ça évolue. Il y a besoin de rituels et il y a besoin de mobilisation des populations et encore une fois d'appropriation complète par l'ensemble de la population. Et ça passera aussi par l'éducation. C'est la clé. Or là, le vrai danger, il est là. Il est dans la perte de connaissances historiques.
Tout à fait.
Ben non, on va terminer sur cet élargissement et la perte de connaissances historiques et le rôle évidemment éducatif dans la transmission de la mémoire. Mais en tout cas, pour répondre à la question, la mémoire ne se perd pas selon vous, car les commémorations sont là et toujours plus nombreuses, et tant mieux pour elles, et de plus en plus variées à l'image de ce qui va se passer cette semaine pour ces 80 ans du débarquement des troupes alliées en Normandie. Merci beaucoup à vous trois, Denis Péchanski, merci, directeur de recherche émérite au CNRS, président du conseil scientifique et d'orientation de la mission du 80e anniversaire des débarquements de la libération de la France et de la victoire. Aïssa Tassé, merci. Directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. Et enfin, Stéphane Simonet, merci. Docteur en histoire, chercheur à l'Université de Caen et ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen. Merci beaucoup à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Hélène Avril à sa réalisation. Allez, 19h, bientôt 59 minutes ici à Paris. Anne Corpé dans un peu plus d'une minute pour le journal de 20h, puis le décryptage. Ce soir, comment la Russie finance sa guerre en Ukraine. Juste après, ce sera l'heure d'Afrique Soir avec Sylvie Berruy, qui est à mes côtés. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain.
Quel est le programme ce soir?
Nous parlerons de l'offensive diplomatique de Moscou en Afrique. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est en tournée. Plusieurs étapes au programme après la Guinée, le Congo-Brazzaville, le Tchad et le Burkina Faso. Et puis, en Afrique du Sud, après le cinglant revers subi aux élections générales où il a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, se réunit demain pour des tractations en vue d'alliance et le départ du président Cyril Ramaphosa n'est pour l'instant pas envisagé selon le parti.
Eh bien, merci Sylvie Berruy. On vous retrouve dans 30 minutes sur Radio France Internationale.